tous réclament des actes plus forts pour lutter contre le changement climatique.
La pollution au plastique, de plus en plus envahissante.
Plus verte la vie. Comment des habitants de notre région, entre Berry, Centre-Val de Loire ou Poitou-Charentes, agissent pour répondre aux défis climatiques. Un podcast du groupe La Nouvelle République.
Être résilient le plus possible.
Pourquoi c'est si compliqué de bien manger ?
Aujourd'hui, il est urgent d'agir.
Circuit court, venir des éco-citoyens.
Bonjour, je suis Claire Nels, journaliste à La Nouvelle République à Blois. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marie Vaquez, horticultrice installée dans le quartier Vienne à Blois et spécialisée dans la production de plantes vivaces bio. Elle s'est installée en septembre 2023 avec son entreprise La Pensée Sauvage. Elle nous accueille sur son exploitation.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à la pépinière. Venez, vous me suivez ? Là, on se trouve sur la Vaquerie, qui est un quartier de Blois-Vienne entre le parc des expositions et le lycée horticole, et qui depuis de très nombreuses années, en fait, historiquement, est un quartier maraîcher qui accueillait, je crois, dans les années 1950, plusieurs dizaines de producteurs plutôt et de fleurs et de légumes, grâce notamment au potentiel agronomique. On est vraiment dans le Limageur de la Loire, donc avec des sols sablo-limoneux très propices aux cultures. Et la ville de Blois et la communauté d'agglomération ont en fait réservé une grande parcelle de 8 hectares et demi pour relancer un peu cette tradition agricole. Et donc moi, je suis arrivée sur cet espace en septembre dernier, donc septembre 2023, sur 1,5 hectare, avec donc mon projet de production de plantes vivaces. Donc à l'automne, j'ai récupéré un champ sur lequel moi j'ai construit les infrastructures qui me permettent à la fois de produire mes plantes, de pouvoir accueillir du public et d'héberger toute l'activité. On partage avec mes voisins un forage, donc moi qui n'est pas sur ma parcelle, qui est un peu au milieu vraiment de la zone de la Vaquerie, et où on peut, ça nous permet, c'est un captage d'eau, et on se répartit, en fait, on a un quota chacun pour pouvoir arroser nos cultures avec cette eau-là. Et surtout, on a un bail rural qui est à clause environnementale, c'est-à-dire que la condition pour exploiter ces terrains, c'est d'être certifié en agriculture biologique. Et on a aussi les bruits de la ville.
On va revenir un peu sur votre passé, puisque vous avez eu une autre vie avant de démarrer cette nouvelle activité. Vous avez été clarinettiste classique et vous avez opté pour vous lancer dans l'horticulture. Expliquez-nous ce changement de vie.
Alors oui, effectivement, donc moi j'ai aujourd'hui 35 ans et jusqu'à à peu près mes 30 ans, j'étais effectivement dans l'univers de la musique. J'ai fait, après mon bac que j'ai eu au lycée d'ailleurs à Blois, puisque je suis originaire de la région. Je suis partie faire des études supérieures de pratique instrumentale. Je jouais de la clarinette et donc j'en ai fait mon métier à la fois pour enseigner et pour jouer dans des orchestres, ce qui m'a amené à complètement quitter le territoire. Et je pense que c'est principalement ça qui m'a aussi à terme fait arrêter, c'est que j'avais vraiment envie de me réancrer localement quelque part. J'étais partie à l'étranger, au Canada et en Belgique pour enseigner et puis finir mes formations. Et j'ai vraiment eu un besoin et une envie de revenir aux sources. Et puis, je n'avais plus envie d'avoir tous les sacrifices que demande la vie de musicien classique professionnel, où vraiment c'est la pratique quotidienne de son instrument avec beaucoup de renoncements. Et puis, une vie un peu, je trouvais, coupée de la société, de la réalité, avec beaucoup de pratiques individuelles. Après, on se retrouvait le soir pour jouer à l'orchestre. Et j'avais envie de renouer avec des choses plus simples. Donc, je suis revenue dans la région en 2016. J'ai pas tout de suite du tout coupé avec la musique parce que j'ai organisé de 2016 jusqu'à 2022 un festival de musique classique itinérant qui s'appelait Va jouer dehors et qui a aussi été peut-être un peu la passerelle avec ma nouvelle vie parce que l'idée de ce festival, c'était vraiment de proposer des concerts dans des lieux inédits et puis sous une forme très simple, très proche des gens, ce qui nous a notamment amené à faire des propositions dans des fermes, toujours en milieu rural, mais ça pouvait être aussi des jardins, des parcs, des choses comme ça. Et puis, en revenant dans le Loir-et-Cher, je me suis moins questionnée sur vraiment quel projet professionnel j'avais envie de monter pour la suite. Et en réfléchissant un peu, la seule chose que je me voyais faire le reste de ma vie, c'était quelque chose autour des plantes. Parce que moi, c'est vraiment une passion que j'ai depuis l'enfance. Je viens d'une famille pas du tout d'agriculteurs, mais on a toujours jardiné avec mes parents, mes sœurs. On avait un grand jardin à la campagne et vraiment, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours énormément apprécié la variété du végétal, connaître leur nom, observer la nature. Et de là a commencé à germer une idée qui était d'ailleurs plutôt à la base une idée de ferme florale, c'est-à-dire de faire pousser des fleurs plutôt pour faire de la fleur coupée et vendre sous forme de bouquets. Et puis, j'ai eu deux opportunités, on va dire professionnelles. C'est d'être embauchée au lycée horticole de Blois à partir de 2019, plutôt pour les accompagner, enfin venir sur la production des plants de fleurs et des plants de légumes que fait le lycée avec ses élèves. Mais il faut aussi du personnel pour encadrer et puis aider à la production. Et j'ai aussi en même temps travaillé sur une ferme maraîchère en bio sur la commune de Chitenay, à la fois un peu sur la production, mais aussi beaucoup sur la commercialisation, où j'ai fait pendant plus de 3 ans tous les marchés avec eux. Et c'est là où, avec ces deux expériences, je me suis rendu compte que finalement, alors d'une, j'aimais beaucoup le contact avec les clients, pas forcément sur l'aspect vente, mais plus sur l'aspect relationnel conseil. Et c'est vrai que le bouquet offre peu de possibilités d'échange avec les gens, contrairement à ce que je fais aujourd'hui, qui est donc la production de plants que les gens vont pouvoir replanter chez eux. Et du coup, pour lequel ils demandent énormément de conseils et il y a beaucoup d'échanges parce qu'on rencontre aussi des passionnés de plantes, des gens qui cherchent des choses un peu originales et donc je peux les aiguiller comme ça.
Quel regard vous portez sur le changement climatique ?
Alors, quel regard ? Ça fait pas tant d'années que ça que je fais ce métier, mais en tout cas par rapport même aux souvenirs que j'avais sur le jardin et sur les végétaux par rapport à mon enfance, je vois, et puis tout le monde le constate qu'il y a un profond dérèglement, avec notamment des phénomènes de grosses canicules l'été et puis des précipitations qui sont réparties très bizarrement, on va dire, dans l'année, avec des grosses périodes de sécheresse. Là, on sort plutôt d'une période où il a beaucoup plu en tout début d'année. Clairement, je pense que ça va profondément modifier les pratiques, notamment du jardin et des végétaux. Alors, moi, peut-être que je le ressens moins, on va dire, que d'autres horticulteurs classiques, parce que j'ai tout de suite fait le choix de travailler sur une gamme de végétaux qui, par essence, sont beaucoup plus résilients et beaucoup plus adaptés à ce changement climatique. Parce que donc les plantes vivaces, la particularité, c'est qu'elles effectuent leur cycle de vie sur de nombreuses années. Contrairement aux plantes annuelles, je vais donner l'exemple d'un tournesol, par exemple, que vous semez au printemps et qui va mourir de sa belle mort après avoir fleuri, donc à l'automne. Les plantes vivaces, c'est des plantes qui vont rester de nombreuses années et du coup qui vont avoir une capacité à s'adapter, à aller chercher des ressources, notamment hydriques, beaucoup plus en profondeur dans le sol. Et puis, on voit aussi que, enfin, moi, je travaille certainement sur une gamme qu'on n'aurait pas pu planter il y a quelques années, notamment parce que, en termes de rusticité, c'était pas possible. Je pense à des plantes, par exemple, méditerranéennes, même les lavandes. C'est vrai que quand j'étais enfant, il fallait vraiment les mettre dans des endroits extrêmement ensoleillés, dans des terrains secs. Maintenant, c'est devenu une plante absolument normale et incontournable parce qu'on a aussi beaucoup moins de fortes gelées et donc on peut se permettre d'en planter partout.
Qu'est-ce que vous êtes en train de rempoter ?
Je suis en train de rempoter du pourpier vivace. Donc là, typiquement, c'est une plante... qu'on voit de plus en plus, qui a une feuille assez épaisse, un peu grasse, et donc qui va extrêmement bien résister au plein soleil et à la sécheresse. C'est une plante un peu couvre-sol qui fleurit l'été et qui, il y a quelques années, on avait du mal à la faire pousser ici parce que ça craint quand même un peu le froid. Mais maintenant, avec les hivers plus doux, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ma rempoteuse. C'est une machine qui en fait a l'avantage de faciliter énormément. Enfin, je pourrais pas m'en passer. Ça remplit le. Il y a toute une chaîne où ça dépile les pots, ça les remplit de terreau et ça fait un trou pour qu'ensuite on n'ait plus qu'à mettre la petite motte de plant. Et donc voilà, c'est mon dernier jouet. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, donc. Voilà, on la teste et ça permet, alors tout, on peut s'en servir tout seul, mais c'est vrai qu'à 2 et 3, ça permet d'être très très rapide parce qu'il y a un petit tapis qui éjecte les pots et qui permet que tout soit plus ergonomique.
Et finalement, la production de plantes vivaces peut répondre aussi à des aspects environnementaux où on n'est plus non plus on est dans le développement durable sans être dans la surconsommation et dans le renouvellement chaque année. Alors.
Exactement. Et ça, on le voit beaucoup. Enfin, moi, je le vois beaucoup avec les collectivités, avec les jardiniers des communes qui se tournent de plus en plus vers ce qu'on appelle du fleurissement durable, donc avec de la plante vivace, pour justement, pour deux choses, pour éviter d'avoir tous les ans, voire même souvent deux fois par an, au printemps et à l'automne, tout arracher et replanter des végétaux qui vont certes se développer très vite, produire beaucoup de fleurs, mais après vont être arrachés, jetés pour en reproduire, pour en replanter d'autres. Et puis, d'un point de vue vraiment gestion de l'eau, en fait, ces plantes annuelles, pour justement, comme elles sont sur un cycle très rapide, ont énormément besoin d'être arrosées. Et on voit que là, avec les différentes sécheresses et les restrictions sur la possibilité d'arroser, de plus en plus de communes veulent vraiment travailler sur des massifs avec... sans arrosage ou en tout cas avec le moins possible. Et pour ça, la plante vivace, c'est l'idéal. Et puis moi, je travaille avec eux sur vraiment sur trouver la bonne plante pour le bon espace. Parce qu'il faut savoir que notamment en ville, on n'est pas comme dans un jardin. C'est-à-dire qu'en général, avec toute la masse minérale, il y a des forts réchauffements, enfin ce qu'on appelle des îlots de chaleur, c'est-à-dire un petit pied de mur où du coup le mur va accumuler de la chaleur, va renvoyer. Il fait très très chaud, donc il faut trouver les plantes bien adaptées. En termes de volume de terre, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on voit les travaux, en général, il laisse une petite fosse pour les plantes, mais c'est pas comme dans une prairie ou un jardin où la plante va vraiment pouvoir explorer beaucoup de volume de terre. Là, il faut trouver vraiment des végétaux qui soient rustiques, qui soient un peu la plante magique, quoi, qui fleurissent beaucoup, sans trop d'arrosage, sans trop d'entretien, qui va pas trop perdre ses feuilles et perdre ses fleurs sur la rue parce que il y a encore des des croyances où il faut que ça fasse propre. Et donc, des fois, quand il y a des choses qui retombent un peu sur le trottoir, certaines personnes trouvent ça pas à leur goût, on va dire. Mais clairement, enfin, moi, je sais pas si je peux dire que c'est ça qui a motivé mon choix d'aller dans cette gamme, parce que c'était une évidence. C'est-à-dire, je me suis jamais posé la question de faire autre chose que de la plante vivace. Mais certainement parce qu'au fond de moi, j'ai cette conviction et cette culture, on va dire, de écologique, et que donc ça me... Enfin, clairement, ça a dû participer inconsciemment à mon choix aussi. Après, c'est vrai qu'il y a une petite particularité liée à ma production, parce que donc moi, je suis certifiée, même quand j'étais déjà sur l'espace test, je l'étais aussi. Ce qui se passe, c'est que la réglementation pour la plante ornementale est encore un peu à son balbutiement. C'est-à-dire que je pense que clairement jusqu'à maintenant, personne ne s'était vraiment posé la question ou trouvé un intérêt à certifier, enfin à vendre ou en bio des plantes à destination ornementale esthétique. Autant le bio sur l'alimentaire, ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est rentré dans les mœurs. Autant pour ce qui est décoratif, le marché n'existe pas encore, notamment au niveau des fournisseurs. Parce que donc moi, je multiplie moi-même une partie des végétaux, soit issus de semis, soit issus de boutures que je fais sur des pieds mères. Mais je travaille aussi avec ce qu'on appelle des multiplicateurs, c'est-à-dire des horticulteurs qui sont spécialisés dans la vente à des professionnels et qui font eux aussi que du semis et de la bouture. Et donc qui me vendent en petites mottes des plants que moi je vais repiquer, rempoter et élever jusqu'à ce qu'ils soient poussés et être en état d'être vendus. Et en fait, c'est sur cet aspect-là où, pour le moment, c'est difficile de... Enfin, je ne suis pas autorisée à apposer le label bio sur les plantes issues de ces jeunes plants, parce que, clairement, je pense que... Enfin, moi, j'ai appelé mes fournisseurs pour leur demander. La solution, ce serait qu'ils me fournissent ce qu'on appelle une attestation de non-traitement qui justifie que... Ils n'ont pas utilisé des produits qui seraient interdits dans le cahier des charges en bio. Et ils m'ont dit, mais nous, personne ne nous a jamais demandé ça. Donc, je ne lâche pas l'affaire. Je pense que clairement, ça va évoluer. Ça va faire partie voilà, de la suite logique.
Quels sont vos projets ?
Autour de la zone de production qui en fait est assez réduite sur l'ensemble du terrain, parce que ça doit représenter 2 à 3 000 mètres carrés sur les 1,4 hectares que compte ma parcelle. J'ai deux gros projets en cours, un que j'espère voir se réaliser très rapidement, c'est la création d'une mare. Les milieux humides en général et les mares, moi pour en avoir déjà une chez moi, je me rends compte que c'est vraiment un gros réservoir pour la biodiversité. Hein. Très vite, ça accueille des espèces qu'on ne peut pas voir autrement qu'en ayant une mare, à la fois sur des batraciens, sur des insectes, sur aussi des plantes qui ont besoin soit d'être immergées, soit d'être vraiment en milieu humide. Puis la deuxième chose, c'est que tous les espaces qui aujourd'hui sont plutôt en prairie, moi, mon but, c'est vraiment de les aménager sous forme de jardin, avec des grands massifs de vivaces où on pourra retrouver aussi ma production, des arbres fruitiers, de pouvoir ramener le maximum de végétaux, le maximum de vie sur la passerelle, la parcelle, à la fois pour un aspect, on va dire, esthétique, mais aussi parce que moi je trouve que c'est important enfin de ramener des choses le plus de végétation possible.
Quel parallèle trouvez-vous entre la musique et l'horticulture ?
Je me pose souvent la question, mais je trouve que c'est pas si éloigné, parce que alors c'est peut-être très personnel, mais je pense que moi ce qui m'a amené à faire de la musique, c'était aussi la notion de beau et d'améliorer, on va dire, le ça va avoir l'air très très pompeux et présomptueux, mais je pense qu'il y a un peu de ça, c'est de rendre la vie plus belle, ou en tout cas de participer à un monde, voilà, à quelque chose de positif. Je trouve que l'agriculture, en tout cas moi, m'a permis de côtoyer et d'élargir beaucoup, enfin très largement mon champ de rencontres avec tout un tas de gens différents. Quand je faisais de la musique, c'est vrai que, surtout, et ce qui est certainement vrai encore plus avec la musique classique, c'est que ça s'adresse malgré tout principalement à un type de public.
Vous avez le temps encore de jouer de la musique ?
Alors, je n'ai plus le temps et j'ai effectivement complètement arrêté. J'ai arrêté le premier jour du premier concert du premier festival en 2016. On me demande souvent si ça me manque pas. Bah non, en tout cas pas encore, peut-être un jour. J'y pense et c'est vrai que j'ai adoré. Hein. J'ai adoré aussi faire ce métier, cette vie-là. Mais là, en tout cas, c'est suffisamment rempli pour que voilà, ça me manque pas. Et puis je dis pas qu'un jour je m'y remettrai pas ou que je trouverai pas une autre façon de renouer avec ça, parce que notamment le festival, ça a été une aventure extraordinaire qui moi me manque plus que le fait de ne plus jouer, mais peut-être qu'une fois que je serai bien installée ici, j'aurai envie d'accueillir dans ce beau jardin pour des concerts, peut-être.
Merci Marie pour cet échange et puis on suivra vos projets, leur évolution, promis.
Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.